Chapitre 48. Tout en essayant d'évaluer rapidement la situation, Juna tourne à nouveau son arme vers le barbu qui recommence à bouger. Un conflit a dû éclater entre les trafiquants de migrants, les réfugiés et Parissa. La vieille femme reste avec son tricot sur la pile de batterie, le père est agenouillé, les mains au-dessus de la tête. « Il faut qu'on parte d'ici, » dit Juna. Trois réfugiés se dirigent vers eux sur le sentier entre l'atelier et les bateaux en hivernage. Juna sent des battements contre ses tympans. Il jette un regard en direction de la mer avant de se tourner vers Parissa. « Ils sont tous là ?» lui demande-t-il, notant que la lumière de la maison s'est éteinte. « Oui, apparemment, il ne reste plus qu'eux et ma sœur. Appelle-les et dis-leur de venir avec nous. » Parissa chuchote quelques mots qu'Amira transmet aux autres. Il s'approche, ne sachant pas trop quoi penser. La femme âgée ne veut pas venir, mais le garçon lui tapote la main pour essayer de la calmer. « Allez, venez !» les encourage Juna. Et il tourne l'arme vers le père. Le garçon pointe le doigt, dit quelque chose et rampe sous un voilier blanc. Quelques secondes plus tard, il en ressort avec le pistolet de Parissa qui lui tend d'un air joyeux tout en se brossant les genoux. Parissa passe un bras autour des épaules de sa sœur et avance la main pour prendre l'arme. Souriant, le garçon fait un pas dans la zone éclairée par les projecteurs lorsque sa tête bascule sur le côté et que la moitié droite de son visage vole en éclats. Ils perçoivent tous le bruit que font le sang, la chair et les morceaux de crâne en éclaboussant l'élégante quille du voilier avant d'entendre la détonation d'un fusil. « Suivez-moi, suivez-moi !» crie Juna. Et il tente d'entraîner Parissa et sa sœur vers le chariot élévateur. Le vacarme infernal s'amplifie, les rugissements saccadés d'un hélicoptère les agressent de toutes parts, leur assénant comme des coups à la poitrine et à la gorge. « Tout le monde à terre !» hurle Juna. Très sombre contre le ciel noir, l'hélicoptère du groupe d'intervention fait un tour de reconnaissance. Un tireur d'élite est pendu dans son harnais à l'extérieur de la cabine, les pieds appuyés sur le train d'atterrissage. La vieille femme afghane rampe sous les bateaux tandis que le footballeur court, accroupi le long du hangar, vers le chemin d'accès. L'homme barbu que Juna a mis à terre roule sur lui-même et disparaît dans les hautes graminées devant la façade. Juna parvient à mettre Parissa et sa sœur à l'abri derrière le gros chariot élévateur. Il pose le fusil dans l'herbe à côté de l'atelier et essaie de téléphoner à la CEPO. Il n'entend qu'une sorte de vibration sonore, mais il répète plusieurs fois qu'il faut interrompre l'intervention, qu'il n'y a pas de terroristes dans le port. Anders se remet debout en s'aidant de sa canne anglaise, montre l'hélicoptère avec un sourire aux lèvres et se dirige vers l'eau. Les arbres bruissent et le crépitement du rotor s'intensifie lorsque l'hélicoptère décrit un virage serré derrière eux, quelques secondes avant d'arriver de face, avec une étrange lenteur. Les quatre projecteurs fixés sous l'hélicoptère balaient le chantier naval d'une lumière blanche et froide. Cinq membres du groupe d'intervention sont accrochés à une corde sous l'appareil pour une exfiltration par grappe. Tous sont casqués, équipés de gilets pare-balles de type 4 et d'armes de combat. Comme des poupées noires enfilées sur un câble, étrangement statiques, ils s'approchent de la terre ferme. Le bois mouillé des pontons brille sous les projecteurs quand l'hélicoptère survole l'eau. Anders se tient immobile sur le rivage et rit en regardant la grosse machine volante. Le ciel est sombre, mais les trois lampes sur la façade de l'atelier éclairent en partie le chemin de terre. Le vacarme est toujours plus assourdissant. Juna essaie de téléphoner à nouveau, voit sur l'écran que quelqu'un a décroché et hurle d'arrêter l'intervention, qu'il n'y a pas de terroristes dans le port. « Interrompez immédiatement le dispositif !» répète-t-il. Tout le monde, sauf Anders et la vieille femme sur sa pile de batterie, s'est mis à l'abri. Depuis le chariot élévateur, Juna voit l'hélicoptère s'approcher de la terre et se préparer au vol stationnaire au-dessus de la petite plage. L'eau s'agite, un cercle d'écume se forme. Des vagues furieuses balaient les pontons qui tanguent sous leurs assauts. Les projecteurs envoient ramper l'ombre tremblante de la grue sur l'allée de gravier et la paroi du hangar. Une rafale soudaine fait tanguer l'hélicoptère et le mécanicien s'efforce de tenir le câble d'aérocordage éloigné de la cabine en contrant avec le pied. Le bruit du rotor change, devient plus grave quand l'hélicoptère fait du surplace, puis descend, déstabilisé par le vent. Les cinq hommes du groupe d'intervention oscillent sur leurs cordes. La bâche qui protège un des bateaux se détache et s'envole dans la nuit. Les hommes touchent le sol et défont rapidement leurs harnais, puis courent se mettre à l'abri. L'hélicoptère remonte, pivote et s'éloigne lentement. Un coup de feu est tiré tout près. L'écho de la détonation résonne contre l'île en face de la marina. Le tir est venu de derrière Juna. Il a tout juste le temps de se dire que la CEPO a dû poster d'autres tireurs d'élite à terre lorsqu'il voit l'hélicoptère perdre de l'altitude. Il comprend aussitôt ce qui vient de se passer. Un autre trafiquant de migrants se trouve dans la marina. Il a éteint les lumières dans la maison avant de sortir et de tirer sur l'hélicoptère avec un fusil de chasse de gros calibre. Il a atteint le pilote. Le rotor principal heurte la grue. Une grosse explosion projette une pluie d'étincelles. L'appareil est soufflé sur le côté comme un papillon de nuit qui se brûle à une lampe. Le copilote n'a même pas le temps de prendre le relais. L'appareil plonge et se fracasse contre les bateaux à moteur recouverts de bâches. Le crachotement du rotor et le bruit du métal qui se déchire fusent. Trois explosions rapides retentissent. La moitié d'une pale de rotor frôle la tête d'Anders, qui se tient toujours debout près de l'eau. La pale atterrit avec fracas contre la paroi de tôle de l'atelier où elle éclate en morceaux. En quelques secondes, une boule de feu orange s'élève dans le ciel. Le feu gagne l'herbe, la lisière de la forêt et les bâches des bateaux amarrés au ponton.